Radio Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Kindu. Voici les titres de votre journal vespéral. En Ituri, l'armée ougandaise bombarde depuis ce matin des positions retranchées des rebelles des ADF en territoire d'Irumu. Le porte-parole de l'armée en Ituri confirme que c'est dans le cadre des opérations de mutualisation des forces entre les armées congolaises et ougandaises. Au sud Kivu, plus de 300 ménages du territoire de Calais sont sans abri depuis deux jours maintenant. Leur maison a été emportée par la pluie accompagnée de vents violents. La société civile de Calais dresse un bilan de 5 enfants portés et disparus jusqu'à ce jour. L'invité de ce journal est le secrétaire général du RCD KML, le député national Kiro Tsongo Grégoire. Étant en vacances parlementaires à Beni, il parle de l'espoir qui renaît dans la région deux mois après le lancement des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les ADF. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Ituri, l'armée ougandaise bombarde depuis ce matin des positions retranchées des rebelles de ZADF dans la forêt de Makolo, vers Zungulouka dans le territoire d'Irumu. Selon plusieurs sources concordantes dans la région, des détonations d'armes lourdes sont entendues dans plusieurs localités au sud d'Irumu où une certaine psychose a gagné la population. Le porte-parole de l'armée en Ituri confirme qu'il s'agit que c'est dans le cadre des opérations de mutualisation de forces entre les FARDC et les UPDF contre les ADF. Martial Kizabiamungu.
C'est depuis 6 heures ce matin, heure de l'Est, que les premières bombes tirées par l'armée ougandaise sont tombées dans la forêt de Makolokolo vers Zungulouka. Selon des sources concordantes, ces tirs sont lancés depuis les villages de Robisengo vers Aïbalé, de l'autre côté de la rivière Semuliki en Ouganda, vers la localisation des campements de ZADF au sud d'Irumu, ce qui a créé une psychose parmi les populations de Boga, Tchabi et dans la région de Komanda, confirment les mêmes sources. Dans une communication c'est mardi matin à Bounia, les porte-parole de l'armée en Ituri parlent du débit effectif des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la province de l'Ituri. Gilles Ngongo.
Nous demandons à la population à ne pas avoir peur, de continuer à collaborer avec les forces armées, l'accompagner jusqu'à la victoire finale. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations ici en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni, que nous sollicitons que la population puisse raviver l'esprit patriotique.
Pour le moment, aucun bilan de ces opérations n'est disponible. Notons que c'est depuis le samedi 29 janvier dernier que des centaines d'éléments de l'armée ougandaise ont traversé la rivière Semiliki en direction de Bourassi, chef-lieu de la chefferie de Baema Mitego. À Ituri, Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
En Ituri encore, plus de 1000 élèves de 4 écoles primaires du groupement Malabo dans les territoires de Djougou ne fréquentent pas leur école respective depuis environ une semaine. À la base, des exactions meurtrières de la CODECO qui ont occasionné le déplacement des parents et leurs enfants dans les entités considérées sécurisées. Selon la société civile locale, vu l'absence des FARDC dans cette zone, ces élèves ne savent pas comment retourner à l'école, ce que rejette l'administrateur du territoire de Djougou. Des détails avec Ezekiel Mouzalia.
Tout est parti de l'attaque la semaine dernière par des éléments du groupe armé Codeco dans les centres de Malabo, situés à environ 30 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Selon la société civile locale, cette attaque a coûté la vie à deux civils et provoqué l'incendie de plusieurs maisons. La même source indique que 4 bâtiments scolaires, dont Kambé, Voura, Kikima, n'ont pas été épargnés par cette attaque qui a poussé les parents et leurs enfants à fuir cette entité. Dino Gédéon.
Dans le groupement Malabo, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de... Il y a 4 écoles primaires qui ne fonctionnent pas à cause de cette attaque. Que l'administrateur militaire fasse le tout et d'envoyer une position militaire FADC dans cet groupement.
L'administrateur du territoire de Djougou rassure que des efforts sont en cours pour renforcer la sécurité des civils dans cette zone. Le colonel Ladislas Mabosso s'inscrit en faux contre l'absence des FARDC à Malabo.
L'armée continue toujours à attaquer les groupes armés. C'est qu'il est vrai que l'optimisme des groupes armés continue. Voilà un peu ce qui inquiète donc tout le monde, que ce soit la population. Les efforts sont toujours là.
Plusieurs sources dans la région alertent également sur la dégradation des centres hospitaliers dans cette zone, toujours par ces miliciens de la CODECO. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au sud Kivu, plus de 300 ménages du territoire de Calais sont sans abri depuis deux jours maintenant. Leurs maisons ont été emportées par une pluie accompagnée de vents violents au groupement de Mubougou, chefferie de Bahavou. La société civile de Calais dresse aussi un bilan de 5 enfants portés disparus jusqu'à ce jour. Emmanuel Elamejo Akabedi.
C'est une énième catastrophe naturelle qui vient de se produire dans le territoire de Calais. L'administrateur de ces territoires en parle des maisons d'habitation ainsi que du bétail emporté. Monsieur Dédé Mwamba Chibwabwa.
C'est précisément à Ramba. Il y a déjà 145 maisons détruites. Plus ou moins 300 ménages sans abri. Les 300 ménages, d'autres dans des familles d'accueil, d'autres vivent à la Belle Étoile. Et plusieurs bêtes ont été aussi emportées par ces eaux-là.
La société civile de Calais évoque un bilan un peu lourd. Un millier de maisons emportées, mais aussi des enfants portés disparus jusqu'à ces jours. Monsieur Delphin Birimbi, président de la société civile de Calais.
Plus de 1500 maisons qui ont été endommagés. On peut estimer au moins à 2000 ménages, à 2000 familles qui sont en train de vivre à la Belle Étoile. Mais il y a eu aussi 5 enfants emportés par cette catastrophe. Donc jusque-là, ce sont des enfants disparus puisque aucun corps de ces 5 enfants n'est retrouvé jusqu'à présent. Donc nous les considérons comme des enfants disparus.
C'est toujours dans le territoire de Calais qu'il y a quelques années, un drame de ce genre avait emporté plusieurs maisons faisant plusieurs dégâts matériels et humains. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, la centrale hydroélectrique d'Amboué, dans le territoire de Kailo, est complètement détruite par inondation causée par la dernière pluie diluvienne du week-end dernier. À part la centrale, le pont qui est jeté sous la RN31 sur la même rivière où la centrale avait été érigée a aussi cédé. Le député provincial de Kailo, Bouchiri Makola Corneille, attire l'attention des autorités car cette situation constitue une urgence, d'autant plus que Kindu a besoin du courant et c'est la centrale hydroélectrique d'Amboué qui est la solution palliative. Le député Bouchiri Makola Corneille revient sur son alerte au micro de Florence Kizalunga.
La centrale hydroélectrique d'Amboué, c'est la centrale qui alimentait la cité de Kailo ainsi que tous les chantiers de Kailo par rapport à Simetin, Somenki et consorts. Et depuis le RCD, les Maïmaï et tout ce qu'il y avait comme belligérants là-bas avaient saboté la centrale. Il y a déjà eu plusieurs missions d'évaluation et les études sont en cours. Maintenant, ce qui vient d'arriver, c'est vraiment la catastrophe. Donc, on était en train d'espérer que cette centrale soit réhabilitée parce que aux dernières nouvelles, il y avait rien comme problème au niveau de la centrale, c'est juste la ligne qui transportait le courant qui posait problème ainsi que les transformateurs pour lesquels on avait vidé toute la quantité d'huile. Mais maintenant, c'est elle-même la centrale qui est touchée, donc on se rend compte que le courant pour Kailo, ça devient une utopie. Surtout, la centrale hydroélectrique d'Ambo était en train de chercher à être réhabilitée pour renforcer Rutshuru cours par rapport à Kindu.
Au Congo central, pendant ce temps, l'axe routier Vunda-Kinkenge, reliant le territoire de Sekebanza à celui de Luozi, se trouve dans un état de dégradation fort avancé. Seule la moto assure actuellement le déplacement des personnes et des biens, puisque les véhicules font une à deux semaines pour atteindre Luozi. Les communautés locales plaident pour la réhabilitation de cette route d'intérêt national à travers le projet de développement à la base de 145 territoires initié par le chef de l'État. Le point avec Nana Plurich-Mambou.
Jadis parcouru en 4 heures, aujourd'hui l'axe routier Vunda-Kinkenge, long de près de 100 km, prend une à deux semaines aux grands véhicules. Ces derniers sont confrontés aux bourbiers et trous qui ne facilitent pas une circulation aisée. Cette situation entraîne la hausse des prix des produits de première nécessité. Le voyageur qui lance des cris de détresse en direction des décideurs estime que la réhabilitation de ces tronçons dépend du programme de développement à la base des 145 territoires.
La route Vunda-Kinkenge demeure un véritable parcours de combat. Et surtout pendant la saison des pluies, donc ça devient un casse-tête chinois. En tout cas, la population locale est en train de fonder son espoir sur les projets de développement à la base avec les 145 territoires, compte tenu de l'état de délabrement fort avancé de cette route d'intérêt national. Donc, laisser cette route d'intérêt national dans cet état-là, c'est une façon de continuer à maintenir les communautés locales dans une pauvreté qui ne dit pas son nom.
Rappelons que cette route en état d'impraticabilité et d'abandon était jadis entretenu par l'Office des routes. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
La synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simon Sel recommande au gouvernement de montrer sa volonté pratique dans son appui à la CENI. Elle demande à l'exécutif national de réajuster le budget annuel alloué à la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'une des recommandations faites par la Simon Sel dans sa déclaration publiée hier lundi relative à la feuille de route de la CENI pour le processus électoral 2021-2027, dont elle relève quelques inquiétudes liées à sa matérialisation. Le détail avec Jeff Ngoy.
La Simon Sel salue le premier pas franchi par la CENI à travers sa feuille de route vers le respect des échéances électorales. Elle note avec satisfaction le calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces de la RDC. Cependant, elle signale quelques inquiétudes quant au budget, notamment l'absence de mentionner dans sa feuille de route le coût global de l'élection des gouverneurs. D'après la Simon Sel, le flou est entretenu sur la transmission des coûts des opérations de la CENI au gouvernement ainsi que le plan de décaissement auquel ce dernier doit s'engager. Cela met en mal la transparence dans l'observation, le contrôle et le suivi de ces plans de décaissement, déclare-t-elle. Elle s'inquiète aussi de la non-clôture de la phase de planification marquée par la non-production des documents pertinents, entre autres le calendrier électoral et son budget ainsi que le plan de mitigation des contraintes. Ainsi, la synergie recommande d'abord au Parlement d'accélérer le traitement des propositions de loi relatives aux réformes électorales en vidant notamment la question de la loi électorale. Au gouvernement de sécuriser l'ensemble du territoire national et de garantir qu'aucune province ne sera exclue des scrutins pour fait d'insécurité.
La République démocratique du Congo prépare donc son 4e cycle électoral et cela nécessite une finance de tous les processus. Lors de la présentation de la semaine dernière de la feuille de route du processus électoral 2022-2027, Denis Kadima, président de la CENI, a déploré la non-reconnaissance de l'autonomie financière de cette institution qui entache son indépendance. Question: qui finance les élections en RDC et quels sont les mécanismes de ce financement? Tentative de réponse dans ce reportage que nous propose Esther Ndalafina.
L'obligation d'apporter les moyens financiers à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, incombe à l'Assemblée nationale qui prévoit des dispositions annuelles pour les élections dans le budget national. La CENI élabore le projet de budget et le renvoie au gouvernement pour examen, appréciation ou un réajustement avant son intégration au projet de budget national. Une fois que le budget national est approuvé, le gouvernement verse les fonds à la CENI selon un plan de décaissement. À ce stade, un mécanisme efficace de versement de fonds à la CENI s'avère indispensable pour permettre à l'organe de gestion des élections d'effectuer sa mission. Les partenaires internationaux apportent également des contributions techniques, logistiques et financières au processus électoral dans le cas où la collaboration est étroite. Certains préalables sont souvent aplanis en amont avec l'organe de gestion des élections du pays organisateur des élections. La communauté internationale avait apporté 80% de son appui aux élections de 2006. En 2011, l'État congolais a financé 90% du processus électoral. Cependant, en 2018, la RDC avait exclu tout financement extérieur. Rappelons que les trois cycles électoraux précédents organisés en RDC ont été financés par le gouvernement congolais ainsi que les partenaires internationaux.
La prison centrale de la Kasapa à Lubumbashi présente une surpopulation avec plus de détenus préventifs que de condamnés. Les conditions carcérales sont déplorables. Constat fait par le groupe thématique gouvernance, paix et sécurité du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Cette structure citoyenne recommande, entre autres au ministre de la Justice, le désengorgement de cette maison carcérale et la réforme du système pénitentiaire. On écoute à ce sujet Jeff Mbia, membre de ce groupe thématique, au micro de Jean Gandou.
Nous avons plus de 1939 personnes, dont 1678 sont déprovenues. Au moment où nous avons seulement 261 condamnés, la prison de la Kasapa a été construite pour 600 personnes seulement. La cause principale est le recours abusif à la détention préventive, mais également la diminution de l'octroi des libérations conditionnelles aux condamnés. C'est ainsi que nous avons fait une série de recommandations, notamment au ministre national de la Justice et garde des Sceaux, d'accepter les propositions de mise en liberté conditionnelle lui adressées par les directeurs de prison, d'ordonner notamment aussi des visites d'inspection pour se rassurer de la situation judiciaire de chaque détenu ou prisonnier. Question de voir comment on peut arriver cette fois-là à l'exécution des grâces présidentielles, pourquoi pas aussi à la loi d'amnistie, et aussi proposer des libérations conditionnelles, relancer la réforme du système pénitentiaire pour ne pas créer dans les jours à venir des criminels quand ils vont sortir du centre de rééducation de la Kassama.
Actualité internationale.
En Guinée-Bissau, des hommes armés ont attaqué hier lundi les locaux du Capital FM, une station de radio privée jugée très critique à l'égard du régime Oumaro Sissoko Embalé et considérée comme proche du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert à l'opposition. Au Mali, la présence des groupes de sécurité privée russes Wagner fait polémique depuis des mois. Hier lundi, c'est le président russe Vladimir Poutine lui-même qui a mis à mal les discours des autorités maliennes de transition en démentant tout lien avec les mercenaires et l'État russe.
L'invité.
L'invité de ce journal est le secrétaire général du RCD-KML, le député national Kiro Tsongo Grégoire. Étant en vacances parlementaires à Béni, il parle de l'espoir qui renaît dans la région 2 mois après le lancement des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les ADF. Le député Kiro Tsongo Grégoire répond aux questions de Marcel Papimoukeba.
Kiro Tsongo, bonjour.
Bonjour.
Comment vous évaluez la situation sécuritaire dans la région de Béni 2 mois après le lancement des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF?
Il y a des points positifs dans la mesure où, par exemple, c'est quand même la première fois depuis des années, hein, depuis le début des massacres, qu'on est parvenu à attraper, à arrêter des hauts responsables de ce mouvement terroriste. Parce que, comme vous le savez, il y a quand même l'un des financiers qui s'appelle Kisokeranio qui a été arrêté à Uvira et quelques jours après, c'est le terroriste Salim, le Kenyan d'origine omanaise, qui avait été, selon les premières informations, en Syrie, en Somalie, un peu partout, qui a été arrêté aussi. Avant cela, il y avait, je crois, un Jordanien aussi qui avait été mis aux arrêts. Je crois que de ce côté-là, les choses s'annoncent bien. C'est la preuve que les opérations conjointes FARDC et UPDF portent leurs fruits. Je crois qu'il y a de quoi être optimiste, même si il faut dire que les massacres continuent malheureusement, mais ça va prendre certainement du temps. En tout cas, je crois que l'espoir est permis. Et même dans la population de Béni, où je suis en vacances parlementaires, je peux confirmer que l'espoir renaît.
Vous parlez des avancées suite aux opérations conjointes FARDC et UPDF. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à la stabilité de la région?
Il faut mettre et maintenir la pression sur l'ADF. Il ne faut pas faire ce qui s'est toujours fait à l'occasion d'autres opérations militaires, parce qu'on n'en est pas à la première. Il y avait des opérations qui étaient lancées et qui étaient abandonnées au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines ou d'un mois, faute de moyens logistiques, etc. Je crois que cette fois-ci, il faut vraiment accentuer la pression et ne jamais la relâcher. D'ailleurs, les informations que nous avons du front, c'est que l'ADF est pratiquement en débandade. Il n'a pratiquement plus aucun bastion et ses éléments sont en errance dans la brousse. Voilà pourquoi il continue à perpétrer des attaques. C'est pratiquement chaque jour qu'on apprend qu'il y a 3, 4, 5 morts. Je crois aussi que l'ADF, dans sa débandade, va certainement s'en prendre aux civils dans les grandes agglomérations. Et là, je ne parle pas seulement de Béni, parce que Béni a déjà été touché. Comme avant-hier, par exemple, il y a eu 6 blessés. Je suis même allé à l'hôpital général visiter certains d'entre eux hier. Le 25 décembre dernier, le jour de Noël, il y a eu aussi une bombe qui a explosé sur le boulevard, qui a fait 8 morts. Et il y a déjà eu d'autres cas comme ça, comme à l'église de Boutsili, où une bombe avait aussi explosé. Voilà pourquoi il faut absolument que des mesures préventives soient prises pour éviter que des kamikazes se fassent exploser ou bien que des poseurs de bombes aient l'occasion de faire cela dans les grandes agglomérations.
Vous vous adressez à la population ou aux autorités?
À tout le monde. Les autorités doivent redoubler de vigilance, collaborer vraiment avec la population, parce que on peut pas faire la sécurité sans la population. Demande aussi à la population d'apporter leur contribution, qui doit être celle d'espionner tout le monde. Chacun doit surveiller le voisin. Par exemple, en ce qui concerne les écoles, Je crois qu'il serait mieux vraiment de protéger les enfants en engageant par exemple des vigiles qui devraient filtrer les entrées des personnes extérieures à l'école, ceux-là qui vont prendre les enfants, etc. Il faudrait aussi que ces vigiles-là soient utilisés pour checker les classes avant que les enfants n'entrent dedans. Donc il faut vraiment des mesures drastiques de sécurité. Il faut qu'il y ait par exemple à l'entrée des églises des détecteurs de métaux à l'entrée des marchés. Donc il faut des mesures qui doivent être édictées par les autorités et qui doivent être communiquées à la population, qui doivent aussi être mises à contribution.
Mais au même moment, il s'observe des appels aux manifestations dans la ville de Béni pour protester contre les temps des sièges. Quelle est votre réaction?
Comme député national, je fais partie de ceux qui, depuis un certain temps, depuis quelques mois, conteste l'état de siège. La situation sécuritaire ne s'est pas vraiment améliorée avec l'état de siège, donc je conteste l'état de siège, mais je crois sincèrement que c'est pas le moment d'organiser des manifestations, parce que l'EDF, l'ennemi peut profiter de ces manifestations pour soit lancer des bombes qui feraient des dégâts énormes, ou encore, comme il est en difficulté dans la forêt, mais il y a certains éléments EDF, à ce que nous avons appris, qui cherchent à rejoindre les grandes agglomérations et voilà. Ils peuvent profiter de ce désordre causé par les manifestations pour entrer à Béni et même dans d'autres grandes agglomérations. Donc je crois vraiment que ce n'est pas le moment. Je crois qu'il y a une autre approche pour que les autorités envisagent d'atterrir par rapport à cet état de siège.
Honorable Kiro Tsongo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, le député Kiro Tsongo Grégoire, l'élu de Béni au Nord qui vous répondait aux questions de Martial Papimoukeba. Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté.